Eu vraiment des rêves et puis c'était pas aimé de ses frères et puis il a partagé ses rêves, ses frères l'ont aimé encore beaucoup moins, ils voulaient même le tuer jusqu'à ce qu'à un moment donné Dieu intervienne et puis fasse passer une caravane par là, puis il a été vendu comme esclave, c'est mieux que la mort au moins. Et puis après ça il a été acheté par Potiphar. Encore une fois il a travaillé fort, il a toujours servi le Seigneur de tout son cœur. Et puis il s'est fait accuser faussement de choses qu'il n'avait même pas commises, lui qui avait voulu respecter son Dieu en qui il croyait, mis en prison. Il s'est écoulé beaucoup d'années, puis un jour il a été libéré. Alors ça, c'est un peu la vie de notre Joseph. Mais on a vu que la raison qu'il a été capable de se rendre à la place où Dieu lui avait montré à l'âge de 17 ans, quel était le plan de Dieu pour lui? C'était de l'amener à gouverner, amen, pour sauver toute la race de la descendance. Et puis, après ça, qu'il puisse sortir de l'Égypte avec toutes les richesses de l'Égypte. C'était pas la façon que Dieu aurait voulu que ça se fasse. Mais lui, Joseph, malgré tout ce qui se passait, on a vu qu'il a toujours gardé son cœur pur. Amen. Il a toujours gardé un bon cœur. Dans Proverbe 4, 23, ça dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Parce que c'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. Amen. Pourquoi Dieu dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose » Parce que c'est, comme il dit, c'est de là que vient la vie. Amen. De ton cœur. Et puis, s'il nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose, c'est parce que c'est ça qui est le plus important. Amen. De toute façon, Dieu regarde au cœur. Amen. Alors, on a vu que Joseph, il a gardé son cœur. Je vais juste reviser un petit peu parce qu'on va enfiler avec ça ce soir. Joseph, il a gardé son cœur malgré la prospérité dans laquelle il était. Parce que lorsqu'il a été vendu comme esclave, oui, il était esclave. Mais il a eu faveur auprès de Potiphar. Potiphar l'a mis en charge de toute sa maison. Alors, il n'y avait rien qui lui était refusé dans la maison, excepté la femme de Potiphar. Amen. Mais ça veut dire, puis la parole de Dieu nous dit que Dieu était avec lui et faisait prospérer entre ses mains. Amen. Puis Potiphar s'en est aperçu que Dieu était avec Joseph et que tout ce que Joseph faisait prospérait. Alors la prospérité n'est jamais montée à sa tête. Il a toujours été capable de garder un cœur pur, même s'il arrivait à la place où ce qui était très prospère. C'est pas grave, ça veut pas dire que là, à un moment donné, il pensait que tout lui était permis parce que là, monsieur était prospère, parce que tout allait bien et que lorsque la tentation avec la femme de Potiphar est venue, que là, ça y aurait monté à la tête puis il y aurait du bon. Tu sais, Dieu est avec moi, tout, je suis prospère, puis à part de tout, si Potiphar est prospère, c'est à cause de moi. Ça ne lui a jamais monté à la tête. Amen. On a vu que ni la prospérité, ni se venger de ses frères, ni le plaisir d'aller avec cette femme-là, ni l'orgueil, il n'y a rien qui a changé son cœur. Puis quand on regarde ça, là, on regarde ça comme s'il aurait été tenté pendant une semaine de temps. Mais ce n'est pas une semaine, c'est pendant 13 ans. 13 ans, c'est long. Amen. Combien de vous, ça fait longtemps que vous attendez? Ben, Louise, on ne posera pas la question. Mais 13 ans, avoir toujours les choses empirées dans sa vie au lieu d'améliorer. Oui, il était prospère. Oui, il vivait dans cette prospérité-là, mais il était esclave, il était loin de sa famille, il était dans un pays étranger, puis toutes ces choses-là. Après ça, il est accusé faussement, il est jeté en prison. Oui, en prison, il a été nommé en charge des prisonniers, mais il était en prison pareil. Amen. Mais ça, jamais son cœur a changé. Malgré le temps que ça prenait, ça faisait 13 ans, puis malgré les opportunités qu'il y avait devant lui de vraiment s'endurcir son cœur. Il y en a d'autres qui ont déjà endurci le cœur pour pas mal moins que ça. Amen. Alors, on a vu que pour cela, il fallait qu'il ait ses yeux sur l'Éternel. Il fallait qu'il ait ses yeux sur Dieu. Parce que s'il aurait eu les yeux sur Potiphar ou sur les circonstances ou autour de lui, il aurait été défait. Alors, on a vu que c'est important de toujours lever les yeux plus haut. Amen. De ne pas regarder aux circonstances autour de nous autres. De toute façon, la parole nous démontre, je pense que c'est dans Pierre, que si on n'a pas la foi, puis on n'a pas avec la foi les autres choses, ça dit qu'on ne voit pas de loin. Avez-vous déjà lu cette écriture-là? Dans Pierre, on va aller. Je vais essayer de la trouver. Fais ça vite, vite, vite. Je pense que c'est 2 Pierre 1. C'est ça. Tous les versets qui vont, on va commencer à lire au verset 5, dans 2 Pierre 1, verset 5, ça dit, « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi à la patience la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. » Voyez-vous que c'est progressif, amen. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. On va produire. Par la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Amen. Après ça, même on pourrait continuer. Ça dit, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ça qu'on veut, pas broncher. Amen. Ça serait désolant. Moi, j'ai déjà vu des ministères même opérer avec puissance, puis avoir des grosses églises, puis des 20, 25 ans de ministère, puis tout d'un coup, ils bronchent. Amen. C'est triste. C'est vraiment triste. Mais avec Joseph, il n'a pas bronché. Malgré les opportunités, malgré le temps que ça prenait, amen, et puis parce qu'il voyait de loin. Mais on vient de lire que celui en qui ces choses ne sont pas en lui, il ne voit pas de loin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'est pas capable de mettre ses yeux sur Dieu. Il n'est pas capable de voir Dieu à l'œuvre. Il voit rien de proche. Il voit rien que les choses autour de lui. Ça va mal, mon frigidaire est vide, puis tout le kit. Comprenez-vous? Il voit juste ça. Mais avec Joseph, il voyait de loin. Si on s'habitue à voir ce qui est éternel, amen. De toute façon, les choses qu'on voit de nos yeux, ils n'ont même pas été faites avec des choses qu'on voit. La parole de Dieu dit dans Hébreux 11, 3, ça dit, car vous savez que l'univers a été formé par la parole de Dieu, amen, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été faite de choses visibles, je voulais le dire. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait avec des choses visibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que qu'est-ce qui est invisible est plus réel que ce qui est visible. Même si le monde dise, tu veux me dire que tout ce que je ne vois pas, c'est plus réel que... Oui, parce que qu'est-ce qu'on ne voit pas, c'est ça qui a formé le réel. Ce qu'on ne voit pas, la parole de Dieu, que quand je la parle, je ne la vois pas de même, mais c'est la parole de Dieu qui forme pareil qu'est-ce qui devient réel. Au commencement, Dieu il a pris la parole, puis il a parlé la parole, puis les choses se sont faites. Les arbres, les oiseaux, les poissons, amen. Tout ce que ça a été fait avec des choses invisibles. Alors, les choses invisibles sont encore plus puissantes, puis plus réelles que les choses visibles, amen. Alors, ce qui arrivait avec Joseph, c'est qu'il avait plus les yeux sur les choses invisibles, sur le Dieu. Dieu va faire ça, puis Dieu est bon, puis Dieu me l'a montré, puis il gardait ses yeux sur Dieu, puis il avait décidé, non, je ne changerai pas d'idée. Même si cette femme-là me tente, non, je vais continuer pareil, parce que comment je ferais pour faire tant de mal à mon Dieu? Ça veut dire qu'il avait plus les yeux sur Dieu que sur les choses naturelles. Amen. Alors, c'est important d'avoir nos choses sur les choses, nos yeux sur les choses invisibles. Nous, on a un avantage. On a même la puissance de l'esprit pour parler en autre langue. Amen. Mais il n'y avait pas ça, lui, Joseph. Mais dans l'Ancien Testament, il y avait 7 dons. Amen. Mais il n'y avait pas la diversité des langues puis l'interprétation des langues. Mais il y avait des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Il y avait le don de la foi, le don d'opérer des miracles. Tous ces dons-là étaient en manifestation par les prophètes. Mais nous autres, on a deux dons de plus. Amen. On a la diversité des langues puis l'interprétation des langues. Puis on a aussi que le Saint-Esprit nous donne les évidences de parler en autre langue. Alors ça nous édifie. La parole de Dieu nous dit que celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Ça veut dire que lui, il n'y avait rien pour l'édifier lui-même. Il devait s'édifier sur Dieu en gardant toujours ses yeux sur des choses invisibles. Tandis que nous autres, on a le moyen de prendre les langues puis s'édifier soi-même. La parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 14, 4, « Celui qui prie en langue s'édifie lui-même. » Celui qui prophétise, il édifie l'Église. Mais celui qui prie en langue, il s'édifie lui-même. Puis dans Jude 20, ça dit, « Priant par le Saint-Esprit, vous maintenez-vous dans l'amour de Dieu. » On va y aller dans Jude 20. Ça dit, vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Ça veut dire que nous, dans le Nouveau Testament, nous aujourd'hui, les difficultés, les circonstances, les tribulations qu'on peut passer au travers, on a cette chose-là de plus que lui n'avait pas. C'est qu'on peut dire, bon, ben là, je vais m'asseoir, là. Ça tourne pas mal vite autour de moi. Les choses ont l'air d'aller plus vite que moi, j'ai le temps de les saisir. Amen. Et puis, une difficulté là, une affaire là. Des fois, on dirait qu'il y a des journées qui sont pires que d'autres. On peut s'asseoir et on peut dire, je vais prier en langue. Amen. On peut s'édifier toute la journée, puis on sait qu'on ne fait pas juste s'édifier. On prie un paquet de choses aussi qu'on va régler, justement, en priant en langue. Alors, merci Seigneur qu'on a ça que lui n'avait pas. Amen. Pour garder notre cœur. Amen. Parce que quand la parole de Dieu dit « garde ton cœur plus que toute autre chose », il parle de notre esprit. Il ne parle pas de la patate qui fait pou, 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 puis que des fois les veines bloquent. Là. Non, non. Il parle de notre esprit. Garde ton cœur. Ton cœur, c'est ton esprit. Amen. Mais quand tu pries en langue, c'est le Saint-Esprit avec ton esprit qui intercède. Amen. Puis toi, tu lui donnes voix, puis tu pries en langue. Amen. Alors vraiment, tu gardes ton esprit. Tu gardes ton cœur plus que toute autre chose. Fait que ça nous aide, parce qu'on vient de lire dans Jude 20, « Et maintenez-vous dans l'amour de Dieu. » Priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Alors, c'est plus facile pour nous, amen, de garder notre cœur plus que toute autre chose que eux autres. Parce que nous autres, au moins, on a le parler en langue qui nous maintient dans l'amour de Dieu. Amen. Alors, c'est la parole de Dieu nous dit, on va aller à Hébreux 13. Hébreux 13, puis je vais regarder au verset 9. La parole de Dieu dit, « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. » Les aliments qui ont servi à rien à ceux qui y sont attachés, ça, dans ce temps-là, ça serait comparable aujourd'hui à des rituels. Okay? Eux autres, des fois, il y avait des aliments qu'ils prenaient, qu'ils ne prenaient pas, selon le rituel. Mais il dit, il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par les rituels, autrement dit. Amen. Par les qu'en dira-t-on, par qu'est-ce que, des fois, le monde nous dit de faire et que ce n'est même pas en ligne avec la parole de Dieu. Il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le cœur affermi par la grâce. Je vais l'expliquer de deux façons. Un, vous savez, c'est quoi la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, c'est qu'il nous a fait grâce quand il nous a sauvés. Alors, c'est bon que le cœur soit affermi sur qu'est-ce qui a été fait pour nous. Il nous a sauvés. Amen. C'est quoi la grâce de Dieu? C'est que Dieu nous a tant aimés qu'il nous a fait grâce. Il a dit, non, 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 je ne te punirai pas pour qu'est-ce que tu mériterais. Ça va être mon fils qui va être puni à ta place. OK? Il nous a fait grâce. Amen. Alors, il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Ça veut dire, il est bon que le cœur soit affermi, ferme sur les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Vous savez, dans 1 Corinthiens 2, vous êtes gentils, vous tirez, parce que c'est facile pour moi, soit de sortir ça de même. Amen, ça veut dire que vous tirez. Eh bien, c'est bon, la qualité, hein, t'as dit. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens 2, 12, ça dit, « Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que, il y avait un but, que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Par sa grâce, nous avons été sauvés. Par sa grâce, nous avons été enrichis. Parce que la parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 8, 9 qu'il s'est fait pauvre de riche qu'il était. Amen. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est fait pauvre de riche qu'il était. Par sa grâce, on a été enrichis. Par sa grâce, il a souffert et on a été guéri. Par sa grâce, il a souffert le châtiment qui nous donne la paix. Alors, il est bon que le cœur soit affermi sur la grâce de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Autrement dit, il dit, c'est bon que vous fassiez ça. Pourquoi? Parce que quand ton cœur est ferme, affermi sur comment Dieu t'a aimé, comment Dieu t'a sauvé, comment Dieu t'a guéri, comment Dieu t'a prospère, quand ton cœur est solide et est affermi là-dessus, sur ces choses-là, les choses qui s'élèvent contre toi, ça n'a pas d'importance. OK? Ça ne prend pas le dessus sur toi. Ça ne change pas ton cœur. Alors, ça veut dire que les gens qui ont subi des tribulations ou des circonstances dans leur vie qui se sont élevées, qui n'étaient pas bonnes et que leur cœur a changé, c'est parce que leur cœur était passé affermi sur la grâce de Dieu. Amen. C'est important. C'est important parce que j'en ai vu des gens virer le chapeau de bord, comme il y en a qui disent, amen, que quand ils s'est élevé des choses, c'est comme, ah oh, non, moi, je veux plus rien savoir des choses de Dieu, puis Pourquoi? C'est parce qu'en réalité, ils ne connaissaient pas la grâce de Dieu. Parce que s'ils l'auraient connu, ils auraient été capables de passer par-dessus. Et c'est exactement ce que Joseph était. Joseph, il était un homme qui avait son cœur affermi sur la grâce de Dieu. Il faut qu'il soit affermi sur la grâce de Dieu pour être capable de passer 13 ans à aller de malheur en malheur. Amen. Tu sais, c'est pas comme s'il est rentré dans la maison de Potiphar, il a fait un jardin, ça s'est multiplié, puis le jardin, il a pris un acre ou deux, puis il voyait que ça allait bien, puis 3 semaines après, il a été jeté en prison, puis 3 semaines après, il est sorti de prison. 13 ans! 13 ans s'est écoulé qu'il a dû s'appuyer sur la grâce de Dieu. Amen. C'est bon que continuellement, quand il s'élève de quoi, on devra aller s'affermir sur la grâce de Dieu. Il s'élève une autre affaire qui nous rend triste, on devrait se virer de bord puis aller s'affermir sur la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est nous autres qui va gagner. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Fait qu'il est bon. Mais voyez-vous, les Hébreux, là, ils n'ont jamais affermi le cœur. On va aller à Hébreux 3. Hébreux 3. Vous savez comment ils ont chiolé dans le désert. Amen. Puis pourtant, il y a eu miracle après miracle. Ils arrivaient à un endroit où ça faisait une couple de jours qu'il n'y avait pas d'eau. Puis l'eau était amère. Puis Dieu il disait à Moïse, prends cet arbre-là, fais-le tomber dans l'eau, puis l'eau va devenir saine. Dieu produisait des miracles pour eux. Après ça, l'eau était pareille comme de l'eau de source. Ils buvaient ça. Une autre fois, il manquait d'eau encore. Dieu disait à Moïse, frappe le rocher. Du rocher sortait de l'eau. Amen. Il y avait plein de choses que Dieu faisait. Puis ça dit au verset 8, « N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte au jour de la tentation dans le désert. » Pas la tentation que Dieu les tentait. Regardez, « Où vos pères me tentèrent. » Autrement dit, c'est comme s'ils tentaient quasiment Dieu de que Dieu choque. Comprenez-vous ce que je veux dire? À force d'être rebelle puis de ne pas reconnaître toutes les bontés de Dieu, il était loin d'être affermi sur la grâce de Dieu. Amen. où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas vu mes voies. Autrement dit, ils n'ont pas vu ma grâce. Ils n'ont pas vu la grâce que j'ai déployée pour amener tellement de signes devant Pharaon pour que Pharaon les laisse aller. Ils n'ont pas vu ma grâce qui ont sorti avec les richesses d'Égypte. Ils n'ont pas vu ma grâce que je les ai fait tout passer au travers de la mer. Ils n'ont pas vu ma grâce où ce que j'ai tout inondé les ennemis puis ils sont morts. Ils n'ont pas vu ma grâce où ce que je les ai donné de l'eau. Ils n'ont pas vu ma grâce. Il dit, ils n'ont jamais vu mes voies. Tu sais, quand la Bible dit, reconnais-le dans toutes tes voies, c'est ça. C'est exactement ça. Reconnais-le dans toutes tes voies, puis il va aplanir tes sentiers. Ça, c'est Proverbe 3, 5, je pense. Ça dit, reconnais-le dans toutes tes voies, puis il va aplanir tes sentiers. Reconnais-le. Eux autres ne le reconnaissaient pas. Ils ne le reconnaissaient pas. Puis qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le cœur est devenu mauvais. Ils n'ont pas préservé le cœur. Pourtant, Dieu aurait voulu qu'ils gardent le cœur. Puis on va aller le voir dans Deutéronome. Dans Deutéronome. C'est tellement important. Et on parlait avec le révérend Joe Morris. Et puis, il disait que la pire chose, il dit, c'est même pas l'adultère, le meurtre, ces choses-là. C'est le murmurage puis le chiolage. C'est la pire chose. Puis c'est ça qu'eux autres, ils faisaient continuellement dans le désert. Quelqu'un qui chiole tout le temps, puis quelqu'un qui murmure tout le temps. Comment ça se fait qu'elle fait ça de même? Pourquoi ça fait qu'elle fait ça? Peut-être, au lieu de juste dire, Père éternel, je te loue. Merci Seigneur pour mes frères et mes sœurs dans le Seigneur. Merci Seigneur qu'on a une église. Merci Seigneur qu'on te connaît au moins comme on te connaît. On veut te connaître davantage, mais au moins ce qu'on connaît nous rend libre. Merci Seigneur. On n'est pas capable d'ajouter le mot merci dans notre bouche. Amen. Ici, les Israélites s'étaient un peu repentis, OK? Puis, ils avaient parlé comme du monde, OK? Et puis, si je regarde au verset... si je commence à lire au verset 27, ça dit, « Approche-toi et écoute tout ce que dira l'Éternel, notre Dieu. Tu nous rapporteras toi-même tout ce que dira l'Éternel, notre Dieu. Nous l'écouterons, puis nous le ferons. » Ils ont dit à Moïse, ils ont dit, « Va, puis écoute. Puis tout ce que Dieu va te dire, on va t'écouter, puis on va le faire. » Ils veulent, là. OK? « L'Éternel entendit les paroles que vous m'adressâtes. » Ça, c'est Moïse, il dit, l'Éternel a entendu les paroles, chapitre 5, verset 27, 28, je vais recommencer. OK, 27. Approche-toi et écoute tout ce que dira l'Éternel, notre Dieu, et tu nous rapporteras toi-même tout ce que dira l'Éternel, notre Dieu. Nous l'écouterons, puis nous le ferons. Là, les Israélites sont prêts, là, ils veulent. Alors, Moïse dit, « L'Éternel entendit les paroles que vous m'adressâtes. Et l'Éternel me dit, « J'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées. Tout ce qu'ils ont dit est bien. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux, le mot heureux, c'est souvent béni, hein? Afin qu'ils soient bénis à jamais, eux et leurs enfants. Je sais que c'est paraphrasé, là, ces trois versets-là, mais là, c'est comme si les Israélites sont arrivés à la place, puis ils ont dit, vas-y, là, parlez à Dieu, puis tout ce qu'il va te dire, là, on va t'écouter, puis on va le faire. Dieu les connaît, par exemple, OK? Fait que là, Moïse, il dit, Dieu y a entendu. Et vous écoutâtes, puis il m'écoutâtes. OK? Puis Dieu y a dit, c'est ça. Oh! Ça serait tellement le fun s'il y aurait toujours un cœur comme ça. Ça serait tellement le fun. Mais Dieu sait que le monde ne préserve pas le cœur. puis ils n'ont pas toujours un cœur comme ça. Mais il dit, ça serait tellement bien si le cœur y était toujours préservé. Parce qu'il dit, ils seraient bénis, eux, puis leurs enfants. Imaginez-vous. C'est ça que c'est dit. Au verset 29. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre. Me craindre, ça ne veut pas dire j'ai peur de Dieu. C'est pas ça que ça veut dire. Craindre Dieu, ça veut dire que tu aimes mieux le croire que lui désobéir. Tu veux lui faire plaisir. Ça veut dire que tu respectes sa parole. Seigneur, je respecte ta parole. Il dit, oui, tu fais bien. Tu fais bien de me craindre. Comprenez-vous, ce n'est pas une crainte peur, c'est une crainte révérence. On pourrait le lire comme ceci. Or, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me révérer, autrement dit, pour me reconnaître, pour me voir, amen, me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient bénis, heureux à jamais, eux puis leurs enfants. Amen. Savez-vous comment de bénédictions on amène sur nos enfants par nos actions? Les parents ont une grande responsabilité. Ce qui se passe dans le monde aujourd'hui au niveau des jeunes, c'est la faute des parents. Ça s'arrête là. C'est quand quelque part, il n'y a pas eu de crainte de l'Éternel. C'est quand quelque part, il n'y a pas eu de fermeté. La vraie amour, c'est pas « Oh, fais qu'est-ce que tu veux ». La vraie amour, c'est « Non, même si tu es choqué après moi, reste à la maison parce que je veux te préserver. » Amen. La vraie amour. Amen. Mais comprenez-vous comment c'est important pour Dieu? Dieu dit, quand on a lu dans l'Hébreu, il dit « C'est pas ça qu'ils ont fait. » Il dit « Ils m'ont provoqué au bout. » Et autrement dit, il me faisait choquer. Je faisais de quoi pour eux? Là, c'était comme « Oh, Moïse, prie. » Là, Dieu, il disait, OK, va frapper le rocher, va couler de l'eau. Puis là, ils sont tous contents. Là, puis là, ils révèrent Dieu. D'un coup, ça va mal. Ils n'ont pas préservé le cœur. Ils n'ont pas affermi le cœur sur la grâce de Dieu, sur qu'est-ce que Dieu venait de faire. Ils marchent par les circonstances. C'est pour ça que Dieu, il dit, oh, c'est-tu de valeur un peu? S'il arrête toujours un cœur pour me révérer, puis pour faire mes commandements, il dit, ils seraient bénis pour toujours, eux puis leurs enfants, c'est officiel. Si tu gardes ton cœur plus que toute autre chose, de lui viennent les sources de la vie, Proverbe 3, 5, comme j'ai lu au début, amen. C'est avec ton cœur, c'est ça que Joseph faisait. Joseph, il préservait son cœur. Il préservait son cœur. Il est accusé faussement, il s'en va en prison. Ça devait être dur. J'imagine que c'est pas juste assis là et dire, Joseph, là, on t'accuse, là. Elle a dit que tu l'avais fait, tu l'as fait, ostine pas. Non, non. Il devait avoir des gardiens alentour de lui, puis des épées, puis ah ouais, il y en avait un peu une claque en arrière. Puis tu sais, je veux dire, avez-vous déjà vu des films dans ce temps-là? Tu sais, là, c'était pas facile. Il a toujours préservé son cœur plus que toute autre chose. Il a sauvé toute sa race à lui. Toute sa famille au complet. Parce qu'il n'y avait pas de rancune, parce qu'il y avait l'amour par-dessus tout. Amen. C'est tellement important. Amen. Gloire à Dieu. Hey, je suis juste à la première page, pas pire. Tu peux t'appliquer à chercher l'Éternel puis à préserver ton cœur. Amen. C'est sûr que ça demande des efforts. Vous avez-vous vu tantôt, quand on avait lu dans 2 Pierre, ça dit « Faites tous vos efforts. » C'est sûr que ça prend un effort pour venir asseoir encore après avoir été ici dimanche matin, dimanche soir, lundi soir, mardi soir, mercredi soir. En plus de ça, on n'a même pas Joe Morris, puis c'est le pasteur qui est revenu. Non, non, mais ça prend des efforts. Amen. Ça prend des efforts. Combien de vous êtes bien honnêtes, là? Je vais poser la question à tout le monde qui est dessus, moi inclus. Combien de vous, ce soir, aimez ça rester à la maison? J'ai dit à mon mari, c'est l'heure du souper, je suis assez fatiguée, ça n'a pas de bon sens. C'est pas grave, on continue pareil. Amen. Puis, donc, tout le monde pourrait penser de prier pour Francine Garneau tantôt, OK? C'est ça. C'est des efforts qu'on fait. OK? J'aurais pu dire, Bon, on va faire une coupe de téléphone pour vous canceller ça. Soit. Non. Amen. Gloire à Dieu. On applique, on met tous nos efforts. Mais je suis certaine que Joseph mettait tous ses efforts. Ça devait être dur. Combien de vous savez qu'il devait être humain? Tiens. S'il y en a qui n'ont jamais vu le film Joseph, là, j'ai le film chez nous, je peux vous le prêter, il est très bien fait. OK? On va vous le prêter, mais il y a un élastique après, puis il y a besoin de revenir net puis pas brisé. Hein? C'est mon film préféré. Je l'ai eu en cadeau. Hein? Je ne sais plus à ce temps-ci si je vais vous le prêter. Tu peux appliquer ton cœur. 1 Chronique 22. Dans l'Ancien Testament, ça. Hein? 1 Chronique 22. Et si je lis le verset 19, Dieu lui demandait quelque chose ici. Amen. Il dit, « Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel. » Tu peux t'appliquer à faire ça. Ça dit, « Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu. » Levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel afin d'amener l'arche de l'Alliance de l'Éternel et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison qui sera bâtie au nom de l'Éternel. Là, c'était le temps de bâtir une maison pour l'Éternel puis de ramener l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance, c'est là qu'était la présence de Dieu. Aujourd'hui, on a la présence de Dieu à l'intérieur de nous. Amen. Gloire à Dieu. Et puis, mais il dit, appliquez maintenant votre cœur puis votre âme. Autrement dit, tes pensées, là, amenez à bonne place, puis ton cœur, applique-le aussi. Amen. À chercher l'Éternel, votre Dieu, levez-vous puis bâtissez le sanctuaire. Amen. Alors, c'est une chose qu'on peut faire, ça, s'appliquer à. Amen. Le monde, des fois, ils vont dire, ben moi, je suis comme ça. Écoute, quand ça va mal, ça va mal. Non. Tu peux t'appliquer. Tu peux te forcer. Tu pratiques toi. Dis, Seigneur, OK, s'il arrive une circonstance, là, appelez-la pas, là, les circonstances. Mais s'il arrive une circonstance, je veux m'appliquer. Puis tu fais tes efforts. Tu mets tous tes efforts. Et il arrive quelque chose, tu dis, OK. Je vais m'appliquer à regarder à Dieu. Au moins, je vais lire la Bible. Je vais, au lieu de chialer, je vais remercier le Seigneur comment il est bon. Je vais mettre mes yeux sur la grâce de Dieu. Je vais m'appliquer. Mais c'est une chose qu'il devait faire. Là, c'était le temps de bâtir le temple. Bien, il dit, il y a une chose qu'il va falloir que vous fassiez. Il va falloir que vous appliquiez votre cœur puis votre âme et à chercher l'Éternel, votre Dieu, et après ça, levez-vous, puis on va être capable de bâtir le temple. Amen. Pour être capable de faire quelque chose, il faut l'appliquer. On a parlé tantôt qu'on fait des efforts, on peut prier en langue, on a cet avantage-là de plus. On a la louange aussi. Amen. Là, je veux parler d'un autre homme, David. David aussi, il n'était pas trop aimé de ses frères, lui non plus. Il n'est pas tout seul dans la vie. Hein? On va aller en 1 Samuel. Je vais juste terminer avec David. Faites-vous-en pas. Vous savez, David, il avait été oint roi. Et puis, ses frères, eux autres, étaient tous entraînés dans l'armée, autrement dit. Et puis, lui, David, il prenait soin d'un petit peu de brebis. Puis là, son père, il a dit, « Va donc porter des sandwichs à tes frères. Là. Ils sont au combo. » Puis quand il est arrivé pour aller porter le lunch, il a vu que Goliath s'avançait. Il avait mesuré 9 pieds, quelque chose, lui-là. Là. Et puis, Goliath, il menaçait l'armée de Dieu. Puis là, David, il a dit, « C'est qui ça? C'est un circoncis-là qui vient vous faire peur comme ça? » Et puis, ils ont dit, « c'est, il vient du camp des Philistins. » Puis le roi a dit que celui qui va le tuer, il va bénir la maison de son père, il va lui donner une fille en mariage, puis il va le combler de richesses. Et là, David, il dit, « J'ai-tu bien entendu? » Amen. Non, mais c'est vrai, des fois, les gens, ils disent, vous autres, vous cherchez le Seigneur, rien que pour être béni. Bien, c'est une belle place à être, là, tu sais, veux dire. Amen. C'est pas rien que pour ça, mais on sait que c'est ça qui va arriver pareil. Amen. Fait que David, il avait posé la question. Au verset 24, ça dit, à la vue de cet homme, on est tous à 1 Samuel 17. Moi, je t'ai rendu, là. 1 Samuel 17, verset 24. Ça dit, à la vue de cet homme, ça c'est Goliath, là, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, j'ai-tu bien entendu? Que ferait-on à celui qui tuerait ce Philistin puis qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Ça veut dire qu'ils ont répété. Ils ont dit, hey, il va venir riche, puis il va avoir une femme. Et écoute, là, pour un jeune homme, c'est intéressant. La maison de ton père est affranchie, il te donne une femme, ça sera pas pire, c'est Nico. La maison, ben oui, parce que c'était pas un laidron là, qui donnait, là. Écoute, là, c'était pas un 2x4, là, wow! Amen! C'était quelque chose de côte à queue, là. T'avais les femmes, dans le début de la Bible, là, il y avait moins besoin, il y avait pas besoin d'Elizabeth Arden, puis toutes l'opération camouflage, là. OK? Alors, la richesse, il a franchi la maison de ton père puis te donne une femme. Hey, bye bye Charlie, t'en vas dans le sud là. OK. Il dit, qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera celui qui le tuera. Éliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et il dit, pourquoi t'es descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu? David répondit, qu'ai-je donc fait? Je ne peux pas parler ainsi. Et il se détourna de lui. Sais-tu des fois quand le monde t'haït, vire tout dans le bord? OK. Il n'a pas resté là à l'astiner pendant 3 ans de temps. Amen. Il servirait de bord pour s'adresser à un autre. Et il fit les mêmes questions. Il a dit, autrement dit, il n'avait pas le temps d'écouter ça, là. Premièrement, il n'est pas orgueilleux du tout. Dieu, il aimait son cœur. OK? Et puis, son frère veut se moquer de lui. Et il dit, c'est qui t'a laissé, là, le peu de brebis, là, pour venir ici sur le champ de bataille? David, c'est quoi, j'ai fait de pas correct? C'est quoi ton... Autrement dit, c'est quoi ton problème? T'as pas rap? Non, c'est ça, là. Okay. Alors, il s'est détourné de lui, puis il a demandé à un autre, qu'est-ce que j'ai dit? Tu sais, des fois, là, c'est bon d'être sûr que tu as bien entendu par la bouche de 2 ou 3 témoins, OK? C'est ça que le roi va faire. Tu vas être riche, tu vas avoir une femme, puis la maison de ton père va être affranchie. Bingo! Il était au combat, lui. Amen. Mais ce que je veux vous démontrer, c'est qu'il était haï de ses frères, lui aussi. Amen. Ses frères, son frère est enflammé de colère juste parce que son petit frère, il est là. Il aurait pu dire, s'il veut se faire tuer le fou qui gueule, tu sais, je veux dire, mais il n'est pas obligé d'être enflammé de colère puis se moquer de lui. Amen. Non, David, il y a eu toutes sortes de choses. Amen. Quand Isaïe est arrivé pour oindre les... Pas Isaïe, je veux dire, Samuel est arrivé pour oindre les fils de Isaïe. Tout Isaïe avec ses fils sont allés, mais ils n'ont pas emmené David. C'est comme si lui était toujours laissé à part. Amen. Là, il arrive sur le champ de bataille, il se fait critiquer. Il n'y a pas trop d'amour. Amen. Mais David, c'est un louangeur. Puis il garde son cœur. Amen. Puis comment il fait pour garder son cœur? Moi, c'est toujours la même chose. C'est dans le psaume 27. Je vais terminer. Il reste 5 minutes, là. Psaume 27. Et j'ai chanté ça toute la journée dans ma tête. Psaume 27, verset 13. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Autrement dit, David s'est toujours appuyé sur les bontés de Dieu. Amen. Et d'ici, quand il dit ça, si je n'étais pas sûr, si vous lisez tout le chapitre, le psaume au complet, et nous autres, on le chantait, ça, verset 1, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. » L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ou de qui aurais-je peur? L'Éternel est ma lumière et mon salut. Vous savez qu'il y avait des petits yeux, le petit gars, là, tu sais. Faut pas oublier qu'il est poursuivi par Saül, le roi. Il fait rien de mal. Il est haï par ses frères. Il est poursuivi par le roi qui veut le tuer. C'est toute sa faute, lui, si Dieu l'aime, puis Dieu l'a oint pour roi. Amen. Il est allé au combat, puis il a tué Goliath, puis là, tout le monde veut le tuer. Il y a le monde contre lui. Il va se cacher dans la caverne d'Adulam, puis tous ceux-là qui sont les plus mal en point se joignent avec lui. C'est intéressant, une gang de... Non, mais ça va pas bien, mais il y a une affaire. Il dit, de qui aurais-je crainte, de qui aurais-je peur? L'Éternel, c'est ma lumière et mon salut. Puis quand il finit le psaume 27, il dit, « Oh, si je n'étais pas sûr de voir les bontés de l'Éternel sur la terre des vivants. » Moi, j'aime la chanson, là. Je resterai confiant, sachant que je verrai la bonté du Seigneur. Mais moi, je l'aime, cette chanson-là. Pourquoi? Parce que c'est exactement, c'est toute la Bible. Moi, là, quand je chante ça, là, quand ils chantent ça, les autres en avant, puis ils devraient le chanter tous les dimanches. Non, c'est pas grave, je le chante à tous les matins. Mais on reste confiant parce qu'on sait qu'on verra la bonté du Seigneur. Ça, c'est démontrer notre foi. C'est démontrer notre espérance. C'est démontrer où est-ce qu'on a les yeux. C'est démontrer, comme David, qu'on est certain qu'on va voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Amen. C'est parfait. C'est la Bible. C'est tout. On n'a plus besoin de chanter d'autres choses. OK? Non, mais c'est vrai. Mais David était comme ça. Il passait au travers toutes sortes de tribulations, mais il gardait son cœur plus que toute autre chose. Pourquoi je sais qu'il gardait son cœur? On va aller au psaume 51 et on va finir avec ça ce soir. Puis vous allez aller vous reposer, je vais aller me reposer, puis tout le monde va être content. Amen. Psaume 51, au verset 12. Il dit, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » « Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » C'est sûr que, si tu continues à lire, on sait que dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas la révélation puis l'autorité au nom de Jésus comme nous autres, on l'a dans le Nouveau. C'est pour ça qu'il dit, « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Saint-Esprit. » Et il n'y avait pas toute la révélation que nous autres, on a aujourd'hui. Parce que Dieu dit, « Jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te délaisserai. » Alors, il y a des choses qu'on ne peut pas arriver puis se mettre à chanter ça, vous comprenez. Mais moi, ce que je veux qu'on comprenne, c'est l'essence de sa prière, si vous voulez. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Qu'est-ce qu'il voulait dire par ça? C'est Seigneur, assure-toi que je garde toujours un bon cœur. Que je ne mérite pas. Je ne mérite pas. Comment on dit ça? Je ne vais pas mériter. OK. Parce que mériter, les mérites, hérite, ça sonne. OK. Je ne vais pas être irrité parce que Saul veut me tuer. Vous comprenez ce que je veux dire? Là? Parce que là, anyway, ça fait chaud. Je ne vais pas être irrité par ci, par ça qui s'élève. Parce que je suis obligée de me cacher, moi qui étais un roi, mes frères qui sont quasiment en colère contre moi, le roi Saül qui veut me tuer. Je suis obligée de me cacher, puis j'arrête pas d'y montrer que je suis un bon gars. Même une fois, il a coupé le pan de la robe du roi pour y montrer, regarde, j'aurais pu te tuer au lieu de couper juste le petit bord de ta robe. Regarde, je l'ai le bord de ta robe, regarde, ta robe est déchirée. J'aurais pu te tuer, je ne l'ai pas fait, je ne suis pas méchant, OK? Mais de voir que c'était toujours du mensonge qui était élevé contre lui, parce que quand Saül est vraiment mort, Et puis Jonathan aussi, la nourrice qui prenait soin des enfants, elle a pris Mephibosheth dans ses mains, le fils de Jonathan, puis elle s'est sauvée, puis elle l'a échappé, puis il est devenu perclus des pieds, puis il s'est caché dans une ville qui s'appelait l'autre bord. C'est vraiment vrai, l'autre bord. L'autre bord. Et puis, il croyait les mensonges qu'on avait. Comprenez-vous, ça a duré longtemps, les mensonges qu'il croyait contre lui. Puis un jour, quand David il était roi, il a dit, « Hey, il reste-tu quelqu'un de la maison de Jonathan pour que je lui fasse du bien? » David, c'est un homme qui voulait toujours faire du bien, mais il était toujours pris de travers, si vous voulez. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, il prie Dieu, puis il dit, « Seigneur, assure-toi que j'ai toujours un cœur bien disposé. Que j'ai toujours mon cœur est pur. Fais sûr que mon cœur, il n'y a pas une petite bite d'amertume. Puis je pourrais aller plus loin, c'est parce qu'il est rendu 8h05. Mais je vais le paraphraser. OK? Vous savez, quand il a regardé un soir à minuit la femme du voisin qui se baignait, et puis qu'il a eu des désirs, puis il l'a fait venir dans la maison, et puis il a couché avec, et puis après ça, il a fait tuer son mari, il s'est arrangé pour qu'il allait au combat, puis envoyé au front, puis vraiment front, là, tu sais, là. Enfin, sûr qu'il ne revient pas, tu sais. Et puis là, elle a eu un enfant, puis Nathan, le prophète, est allé le voir, et puis il a dit, il y a des conséquences à ton acte, ton enfant va mourir. Il s'est pas mis dans l'amertume pour ça. Je sais pas si vous comprenez. Il a pas dit, ben là, après tout ce que j'ai fait, j'ai toujours marché comme il faut, j'ai toujours fait ça comme il faut, j'ai jamais été choqué après Saül, j'ai jamais levé le petit doigt contre lui, j'ai toujours respecté mes engagements, j'ai toujours été correct, puis là, ça m'arrive, bien qu'à cause que j'ai fait ça. Non. Si vous lisez le chapitre, c'est une bonne histoire à lire. Il s'est oint, il a pleuré, il s'est relevé debout, puis il a continué pareil. Puis à la fin de sa vie, dans 1 Chronique 29, ça dit qu'il a fourni de l'argent, tout ce qu'il avait en or et en bien, pour bâtir la maison d'Éternel, puis il est mort heureux, vieux, riche, un vieux riche heureux. OK? Puis il a toujours gardé son cœur. Comprenez-vous? Il a gardé son cœur. Mais il le priait. Des fois, ça veut dire qu'on peut, peut-être pas exactement comme lui l'avait prié, mais on peut dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à toujours garder un cœur pur. Renouvelle en moi toujours un esprit bien disposé. S'il faut que je prie en langue 4 heures par jour pour que mon cœur reste pur, bien, fais-moi prier 4 heures par jour. Comprenez-vous? Mettez tous vos efforts à garder votre cœur parce que de lui viennent les sources de la vie. Amen. On va se lever debout. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Oh, Père éternel, je veux prier pour chacun de nous ce soir, Seigneur. Parce que chacun de nous, on a des efforts à faire dans toutes sortes d'avenues de nos vies, Seigneur. Père éternel, afin qu'on ne s'abandonne pas à l'inquiétude ou à la crainte, ou à la paresse, ou à toutes sortes de choses, Seigneur. Père éternel, que notre cœur soit toujours préservé, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Viens au secours de toutes nos faiblesses, Seigneur. Père éternel, un homme avait prié ça un jour pour son fils qui était malade. Il dit, « Je crois, Seigneur, mais viens au secours de ma faiblesse. » Seigneur, c'est ma prière ce soir, Seigneur. Père éternel, je sais que des fois, on glisse sur une affaire ou une autre, Seigneur, puis on marche avec de la condamnation, puis on se dit, « Ah non, je n'ai pas encore manqué le bateau. » Aide-nous, Seigneur, à marcher d'une manière digne du Seigneur, à être entièrement agréable, à porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, à croître dans la connaissance de Dieu, à être fortifié à tous égards, Seigneur, à préserver notre cœur plus que toute autre chose. Parce que oui, on veut cette vie en abondance, non seulement pour nous, Seigneur, mais pour tous ceux avec qui on est en contact, Seigneur, afin que ça se répande, ça se répercute même sur notre descendance. Au nom précieux de Jésus. Amen.